Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Salut les fous du volant, sixième épisode de votre podcast consacré à la Formule 1 et au sport mécanique. On est au lendemain du Grand Prix de Chine qui faisait son retour au calendrier pour la première fois depuis 2019. Et on va évoquer donc la quatrième victoire cette saison pour Max Verstappen, encore une fois impressionnant. Faut dire qu'il a fait à peu près ce qu'il a voulu, quand il a voulu, comme il a voulu, Steph.
Presque, souviens-toi de la course au sprint quand même, il n'a pas été bien pendant deux tours, on va en reparler.
Il n'a pas été bien pendant deux tours, ça sera oui. Le scoop de ce podcast aujourd'hui. On va aussi évoquer l'idée d'un nouveau barème pour la Formule 1. En gros,
c'est un vrai projet, hein.
On donnerait des points jusqu'au 12e à l'arrivée. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Puis on a deux chiffres plutôt intéressants à vous proposer. On parlera aussi du calendrier de la saison 2025 qui a été officialisé. On reçoit aussi cette semaine Lionel Froissart, journaliste hyper connaisseur de la Formule 1 depuis bien longtemps, auteur d'un livre sur Ayrton Senna dont on va commémorer la disparition le 1er mai prochain. Et on reviendra aussi sur la deuxième manche du championnat du monde d'endurance à Imola en compagnie de Fabien Gérard qui a commenté cette épreuve sur Eurosport. Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner. De cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. On évoque donc ce Grand Prix de Chine, premier format sprint de la saison, avec un numéro de Max Verstappen qui a remporté la course sprint, qui a remporté le Grand Prix. On a eu droit à du Red Bull à tous les étages, y compris dans les stands, hein, Steph, où là aussi ils nous ont fait presque deux démonstrations. Ce Grand Prix de Chine est vraiment à mettre sous le sceau du taureau rouge.
Bah, ils ont réalisé les deux meilleurs temps, 1 seconde 90 d'intervention pour Verstappen et 2 secondes, ce sont les deux meilleurs temps de la saison. Et si on regarde le top 3 depuis le début de l'année, eh bien, ils ont placé 8 voitures sur 10 possibles dans ce top 3. Et quand tu regardes la concurrence, bah, Ferrari, ils en sont à 3, 2 avec Leclerc et 1 avec Sainz. Et puis McLaren, pareil, 3 et 3 pour Norris, ce qui veut dire que Piastri est un petit peu moins bien servi. Mais au niveau opérationnel, ils ont faim. Il n'y a pas de doute là-dessus. Alors, ça fait une centième pole position, ça fait une nouvelle victoire. Je crois qu'on en est à 21 sur 23 pour Verstappen, qui reprend le large au championnat.
Bah justement, on va en parler du déclassement. D'ailleurs, on va faire le point sur les deux. C'était serré jusque-là parce que il y avait eu évidemment la victoire de Carlos Sainz, les ennuis de Max Verstappen qui avait quelque part resserré un petit peu le championnat, relancé un peu, ouais. Donné de l'espoir aussi aux autres. Là, ça y est, c'est reparti. 25 points d'avance sur Sergio Pérez au niveau du championnat des pilotes. Ça veut dire déjà un joker en poche. Et puis au niveau des constructeurs, Red Bull a 44 points d'avance sur Ferrari. Là aussi, il y a un joker d'avance déjà pour les hommes de Christian Horner. Il fait ce qu'il veut, ils font ce qu'ils veulent.
Oui, et puis il y a même l'ami de Verstappen, Lando Norris, qui dit on commence un petit peu à s'ennuyer. Alors nous, on n'est pas tellement d'accord. Alors oui, on s'ennuie un petit peu en termes de résultats, mais on considère que la Formule 1 doit être une méritocratie.
Et c'est pas au premier à qui on peut faire des reproches, c'est aux autres.
Voilà. Helmut Marko lui a dit il faut admirer Max Verstappen et le travail qui est fait par Red Bull. Et là-dessus, on est d'accord. Hein. S'ils doivent gagner les 50 prochains Grands Prix, qu'ils les gagnent parce qu'on veut que ce soit les meilleurs, point. Et qu'il n'y ait pas des artifices qui glissent là-dedans pour nous donner un petit peu de renouvellement. Enfin, ce n'est pas la culture de la Formule 1 en tous les cas. On n'a pas été habitué à ça. Mais Gilles, dans ce constat, ce que je vois surtout, c'est que c'est le règlement encore de la Formule 1 qui nous empêche d'avoir en course
une petite
sprint.
Surprise.
Voilà.
On va revenir. Tu fais référence à l'échange radio. On sait que pendant la course sprint, Max Verstappen a eu un petit souci quand même, hein, comme quoi tout n'est pas parfait non plus. Et c'est par la radio qu'il a trouvé le salut. Là aussi, il y a peut-être quelque chose à faire pour que, de temps en temps, les pilotes soient un peu plus livrés à eux-mêmes.
Il était derrière Hamilton et Alonso et on sentait qu'il n'avait pas d'arguments pour les rattraper et même les menacer. Et on a compris au bout de deux tours qu'il appelle en disant « ma batterie est vide, pourquoi est-ce que ma batterie est vide ?» Et l'ambiacé, son ingénieur, lui répond simplement « mode vide, s'il te plaît ». Et à l'arrivée, Verstappen dit « ma batterie s'épuisait, j'ai dû changer quelques réglages sur le vent ». Ce n'est pas toi qui as changé, c'est ton ingénieur qui t'a appelé. Et au début des années 2000, on a supprimé la télémétrie, en tous les cas les ordres, la capacité du pit wall à changer des réglages en direct d'une voiture sans l'intervention du pilote. On estimait que c'était dangereux, mais aujourd'hui, on a trouvé un moyen détourné. Mais si on avait laissé Verstappen empêtré avec ses problèmes de batterie, il aurait terminé 3e ou 4e, et puis on aurait eu Hamilton vainqueur, Hamilton ou un autre, de toute façon. Et c'est ce qui fait que cette assistance en permanence nous prive parfois d'une surprise parce que ce pilote qui peut être vulnérable, qui peut faire une erreur, eh bien, au bout du compte, on le rend quand même parfait. Et on a les mêmes vainqueurs pour le troisième week-end avec sprint de suite. On a Max Verstappen, vainqueur du sprint et du Grand Prix de dimanche.
Et comme quoi, on l'a déjà dit, hein, la radio, on devrait la limiter éventuellement au message concernant la sécurité.
Voilà.
Il y a une
mais
voiture
coaching,
arrêtée à tel endroit. Et puis derrière, effectivement, laisser les pilotes livrer un petit peu plus à eux-mêmes.
Faire leur stratégie aussi, on en viendra à ça, puisqu'il y a eu deux voitures de sécurité. Et là, c'est Verstappen qui a été
critique.
Critique par rapport à cette intervention. La première a fait 3 tours, je crois, la deuxième 5 tours pour nettoyer la piste, etc. Et il a dit, c'est un petit peu dommage, moi j'ai trouvé ça long. Et en tous les cas, ça a empêché une certaine diversité en termes de stratégie. Ce qui fait qu'en fait, on voit à peu près les mêmes pilotes développer les mêmes tactiques de course. Et puis, on a un résultat ensuite qui est assez convenu, même s'il y a eu un petit peu de suspense pour la troisième place. Mais lui-même l'a dit, donc c'est que ça doit être quelque part comme un petit peu vrai. La direction de course est un petit peu tombée dans la facilité de ce point de vue-là.
On parle aussi peut-être du fait que on voit au niveau du classement des constructeurs que il y a 5 équipes qui font quasiment le plein de tous les points, hein. Red Bull, Ferrari, McLaren, Mercedes, Aston Martin, et puis derrière c'est quasiment un vide sidéral. Les anciennes AlphaTauri, je suis désolé, je suis un peu fatigué, les 24 heures du Mans Moto m'ont un peu fatigué. Les Racing Bull, 7 points, Haas, 5 points, tous les autres 0 points.
Il y a 5
équipes qui cumulent 12 points au classement des constructeurs. Il y a une vraie différence là, et forcément devant, comme on est en plus assez fiable, on n'a plus grand chose à jouer quand on est dans la deuxième partie du peloton.
Alors dis-toi bien, effectivement on est fiable. J'ai noté 4 grands prix sans abandon dans l'histoire de la Formule 1 de 1950 à 2014 et 10 depuis 2015. Ça veut dire la fiabilité est passée par là, les équipes de pointe sont au rendez-vous dans le top 10. Et après, il y a.
Les dégagements bitumés aussi.
Aussi,
hein.
Voilà. Et il y a une place ou deux accessible, mais rarement, trop rarement. Là, c'est Hülkenberg quand même qui l'a pris. Et ces petites équipes commencent à dire nous, pour exister quand même, on a aussi du mérite de terminer 11e ou 12e. On aimerait que les 12 premiers soient récompensés en termes de points. Et c'est une mesure qui va passer.
Et justement,
l'année prochaine, très vraisemblablement, puisque
on va en parler.
Les top teams aussi sont d'accord.
On va en parler. Ça fait partie des sujets qui sont évoqués de plus en plus régulièrement et qui, là, on le sent, vont finir par passer. C'est l'instauration d'un nouveau barème d'attribution des points en Formule 1 en Chine. Ça a beaucoup fait parler parce que les équipes de la deuxième moitié de peloton courent de plus en plus pour essayer de rentrer dans les points. En gros, on ne change pas l'attribution des points jusqu'au 7e. Hein, ça reste strictement identique à ce qui se fait encore aujourd'hui. 25 pour le vainqueur, 18 pour le second et ainsi de suite. Et c'est à partir finalement du 8e qu'on déclinerait de point en point pour arriver donc à attribuer un point au 12e, deux points au 11e, 3 points au 10e. Bon, comme ça, au moins, on donne aussi de quoi se battre pour les pilotes qui sont dans la deuxième moitié du peloton. Déjà, j'avais promis un chiffre plutôt marrant. Est-ce qu'on a des spécialistes de la 11e place, des gars qui sont grands spécialistes, grands chocolatiers, quoi, ceux qui vont chercher la médaille en chocolat plus souvent que les autres?
Alors justement, on a regardé un petit peu ce qui se passait depuis l'instauration de ce top 10 primé en 2010, précisément. Le roi des 11e places, malheureusement par saison. On va commencer par saison, c'est Edgar Suari qui en a eu 5 en 2010, Pérez en 2012 et Gutiérrez en 2016. Et on voit effectivement que là, ce sont les petites équipes qui sont concernées, Toro Rosso, Sauber, Haas. Et puis dans les pilotes qui ont cumulé 4 11e places dans la même saison, on voit Sutil, Maldonado, Pérez, Kvyat, Alonso, au temps où McLaren se débattait vraiment
avec un moteur de GP2.
Oui, en quelque sorte. Norris qui débutait aussi dans une écurie pas encore revenue au premier plan. Et puis Giovinazzi en 2021 avec Alfa Romeo. Donc on comprend cette demande des petites équipes. Et puis alors, tu parles de roi de la 11e place. Là, je citerai Sergio Pérez. Depuis 2010, il en a cumulé 22. Pas moins de 22. Et on retrouve d'ailleurs des pilotes actuels dans la suite de ce classement, des frustrés, malheureusement. Gasly, 15, 11e place. Hein. Alors on comprend ces frustrations, parce qu'à une place près, ça change un petit peu tout. Et puis ça permet aussi de communiquer avec les sponsors, etc., d'exister tout simplement dans un classement. Et puis après, on a du Ricciardo, Stroll, Grosjean avec 13, Kvyat, Alonso et puis Albon, 9. Voilà. Alors, est-ce que pour toi, Gilles, ça te paraîtrait recevable? Je note par exemple, moi, j'aimerais encore une Formule 1, que la Formule 1 soit une méritocratie. Là, j'ai l'impression que ça serait une médiocratie. Alors, je ne parlerai pas de médiocrité peut-être, mais de quelque chose qui est assez médian, où on récompense un petit peu les gens qui sont moyens. Il y a eu très longtemps 26 voitures en Formule 1, un top 6 primé, point.
Oui,
voilà.
Ça a été pendant
et maintenant,
longtemps.
On a 20 voitures et il faudra en récompenser 12. Je crois qu'on va dans le sens inverse du sens de l'histoire.
Je suis d'accord là-dessus, je comprends que ça puisse te choquer. En même temps, comment tu peux expliquer que la voiture qui est arrivée en 11e position, finalement, obtient le même résultat que celui qui est arrivé 20e? Et il faut quand même à un moment mettre une petite prime. Ça, c'est le premier argument. Le deuxième, ça va aussi un petit peu dans le sens du spectacle, où si aujourd'hui, t'es 13e, que t'es juste derrière le deuxième, mais que tu sais que de toute façon le dixième est à 20 secondes devant, tu mets le mode dégradé sur le moteur, et puis tu termines le Grand Prix comme ça en disant bon, c'est raté, on verra la prochaine fois. Là, quelque part, tu vas redonner encore un petit peu d'intérêt, encore des raisons de se battre aux pilotes, et donc renforcer le spectacle, parce que tout ça, ça vient du fait que devant, ça ne se bagarre pas beaucoup parce qu'il y en a un qui s'en va et que de toute façon, je veux dire, 80% du temps, 90% du temps, tu sais qui va gagner. Il faut essayer de renforcer un petit peu l'intérêt. Et je ne crois pas que mettre des points aux 12 premiers, ça réduirait l'intérêt d'un Grand Prix. Regarde en MotoGP ce qui se passe. C'est les 15 premiers qui marquent des points. On n'a jamais remis en cause la légitimité des titres des pilotes MotoGP.
Tout à fait, sachant que les top teams disent qu'on ne bouge pas l'attribution des points jusqu'aux 7 premiers, donc ça ne les concerne quasiment pas. Ça va être à la marge. Après, eux vont marquer quelques points de plus. Ça veut dire qu'ils vont payer plus de frais d'inscription, de super licence. Alors, c'était 1,2 million pour Max Verstappen cette année. Donc, ça fera gonfler un petit peu la note. Mais je ne sais pas si ça doit être systématique. Moi, je préférerais, comme tu vois là, les garçons qui ont fait 5 ou 4 11e place dans une saison. Eh bien, si tu as 2 11e place, on te donne un point.
Oh là là, mais voilà. Ça va devenir compliqué à calculer
non,
après
pas,
pour
pas
le grand
tant
public.
Compliqué que ça, parce qu'il y a des gens qui sont à la porte de ces points-là, et si ça t'arrive une fois dans l'année, c'est pas très grave, mais quand ça t'arrive 4 ou 5 fois, c'est un petit peu plus...
Je préfère autant attribuer des points.
Quelque chose, voilà.
Je préfère autant attribuer des points. Mais c'est marrant parce qu'on a eu la même idée. Je pensais avoir vraiment une remarque exceptionnelle en te disant que tout ça, c'était fait pour améliorer les finances de la FIA, parce que les pilotes payant leur super licence par rapport au nombre de points marqués l'année précédente, ils vont marquer plus de points, donc oui. Ça va faire plus de gens, voilà. Plus d'argent pour, pour la FIA. Bon, je ne suis pas le seul à avoir eu l'idée, on est vraiment connectés, Stéphane.
Et Christian Horner a dit que finalement, lui, était d'accord en tant que top team.
Mais il s'en fout, lui.
Voilà. Non, parce qu'il pense quand même un petit peu à
Racing Bulls. Voilà. Exactement.
Donc, la boucle est bouclée.
Mais oui, Alors après, on verra ce qu'il en est. Je crois que même Fred Vasseur n'est pas opposé. Il vient de chez Alfa Romeo, Fred Vasseur. Il a connu cette situation. Antonio Giovinazzi
en parlait. De toute façon, voilà, ses équipes, Alfa Romeo, Toro Rosso, Force India, As aussi, font partie de ces équipes qui étaient dans les 11-12 premiers, souvent sans marquer de points.
Alors, on va parler maintenant du calendrier, parce que il y a quelques jours, le calendrier de la saison 2025 a été dévoilé. Et en gros, alors, on se retrouve avec un calendrier qui reprend 24 dates, comme en cette saison 2024, qui reprend exactement les mêmes destinations et les mêmes circuits que cette saison 2024. On va juste faire des petites modifications au niveau de l'ordre des épreuves, avec un détail qui n'en est pas un, mais la saison va recommencer en Australie comme il se doit, parce qu'un début de saison, ça, c'est en Australie. Mais on a mentionné du côté de la FIA un effort de régionalisation qui se traduit par une diminution du terme de kilomètres parcourus entre les Grands Prix. On a fait un petit exercice sur notre calculatrice. Alors, envoyez pas un huissier de justice, hein. C'est assez c'est fait de manière artisanale, mais si on reprend les kilomètres parcourus cette saison en 2024 pour aller d'un Grand Prix à l'autre en avion, en imaginant qu'on va directement d'un Grand Prix à l'autre sans rentrer à la maison, le monde de la Formule 1 aura parcouru 120 850 kilomètres pour les 24 Grands Prix de cette saison. Bah, l'année prochaine, ça sera 113 850, donc un nombre de Grands Prix constant. Ça fait quand même 7 000 kilomètres de moins. Donc, c'est une belle réduction, on va dire 5%, 5-6%.
C'est un bel effort, oui, tout à fait. On n'est pas encore dans le découpage en trois. Un temps, une campagne européenne, une campagne américaine, une campagne asiatique. Ça paraît assez difficile avec l'existence de trois événements aux États-Unis qui veulent avoir vraiment
leur période
à eux, sans concurrence, y compris même Miami qui ne veut pas être trop proche de la Manche à Montréal. Donc ça devient compliqué.
Exactement. Je me suis amusé à comparer. Alors là, c'est pareil, c'est totalement arbitraire. Je me suis dit, tiens, on va revenir 10 ans en arrière, voir comment ça se passe. 2014, donc il y avait 19 Grands Prix en 2014, on faisait 93 600 km. Donc finalement, quand même, beaucoup moins que ce qu'on fera en 2025. Bah, sauf que si on prend, et je suis allé encore plus loin, si on prend le nombre de kilomètres parcourus pour faire chaque Grand Prix, la moyenne, c'est 4743 en 2025. Eh ben, en 2014, c'était 4900. Donc, on réduit un petit peu le nombre de kilomètres qui séparent chaque épreuve.
Bon, alors, il y a quelques dossiers encore difficiles à traiter. Je vois en 2014 un Grand Prix de nuit. Donc là, on met les luxes à fond sur tout le tour du circuit. Et en 2024 et 2025, on aura 5 Grands Prix de nuit dont on ne comprend pas toujours l'utilité. Alors si, bien sûr, évidemment, c'est avoir des horaires de diffusion acceptables en Europe, aux États-Unis, mais ça doit aussi faire partie de l'expérience du fan de se lever parfois à 6 heures du matin pour regarder une course. Voilà, point. Donc, et je pense qu'il y a encore des progrès à faire de ce point de vue-là. En tous les cas, si on reste à 5, bon, ça ira, mais on a une inflation aussi de ces Grands Prix nocturnes.
Voilà, réservez vos billets et prenez date. Le calendrier est officiel et il est désormais disponible. On reçoit aujourd'hui dans Les Fous du Volant la visite d'un de nos illustres confrères de la Formule 1 qui couvre la F1 depuis un certain temps. J'ai nommé Lionel Froissart. Bonjour Lionel.
Bonjour à vous.
Grand spécialiste. Ancien collègue, parce que fut un temps, on faisait une émission ensemble sur Eurosport, Lionel, qui s'appelait Autocritique.
Nous sommes affrontés, oui, en plateau sur Autocritique. terrible joute.
vous avez longtemps couvert la Formule 1 pour le journal Libération, notamment. C'est toujours le cas, d'ailleurs, ou pas?
Plus pour Libération, mais pour Sport Auto. Maintenant.
D'accord, ok.
Sport Auto.
Et alors, vous publiez un roman qui s'appelle L'icône immolée aux éditions en Exergue, parce qu'on va célébrer d'ici quelques jours, on va commémorer plutôt, pour reprendre un terme un peu plus précis, le 30e anniversaire de la disparition d'Ayrton Senna, le 1er mai 1994 à Imola. On voulait parler avec vous justement de ce personnage, de cette période. Je signale aussi qu'il y a également la réédition d'une BD qui s'appelle Histoire d'un mythe, histoire avec un S, chez Glénat. J'ai envie de vous demander, parce qu'il y a quand même maintenant pas mal de gens qui n'ont pas connu la période Ayrton Senna en Formule 1, pourquoi est-ce que c'est un personnage aussi mythique? Après, on parlera de votre roman, mais déjà peut-être le personnage, pourquoi est-ce qu'il est mythique? Est-ce que c'est simplement parce qu'il s'est tué en course et que, alors malheureusement, c'est pas le dernier, mais que ça participe à son personnage?
Bien sûr, c'est un peu le cas aussi pour Jim Clark, pour François Sever, pour Ayrton Senna, mais Ayrton Senna, ça allait un peu au-delà parce que la personnalité de Senna faisait que de son vivant, bien sûr, il était tout à fait fascinant, pas seulement pour la façon dont il pilotait, la façon dont il s'engageait dans le combat quand il était derrière un volant, il était tout aussi intéressant en dehors de la voiture qu'à le voir en action sur la piste. Donc je pense que tout ça fait que c'était un personnage vraiment très à part. Il y avait une petite part de mystère aussi. Il était d'une grande sensibilité. On l'a souvent vu pleurer, ce qui est assez paradoxal pour un pilote de F1. On les voit, c'est des costauds, des types durs, durs au mal, etc. Mais lui était aussi dur au mal derrière le volant qu'il pouvait être très sensible, émotif même, en dehors de la voiture. Certains de ses adversaires, d'ailleurs, ont essayé de se servir de cette émotivité. Bon, ça marchait pas toujours parce que, encore une fois, dans la voiture, c'était presque un autre personnage. Et vous avez souligné le fait, évidemment, mourir au sommet de sa gloire, en mondovision, ce qui n'a pas été le cas d'autres pilotes, vraiment en direct, malheureusement. Oui, tout ça participe à l'image qu'on a encore de lui.
Mais alors, quand il rencontre son destin tragique le 1er mai 1994 à Imola, ça fait déjà plusieurs années qu'il est plus populaire que Pelé au Brésil. C'est la star numéro un du sport. Il a une dimension exceptionnelle. Expliquez-nous un petit peu comment est-ce que le Brésil s'était pris de lui. Comment est-ce qu'il a représenté à ce point une fierté pour tout un peuple?
Je suis pas un grand spécialiste du football, mais je crois me souvenir qu'à cette époque, la Seleção, l'équipe du Brésil, n'était pas aussi resplendissante qu'elle l'avait été. Vous avez cité à l'époque de Pelé, évidemment, mais aussi un petit peu après. Et puis qu'elle est redevenue aussi un petit peu après. La seule raison d'être fier et d'être brésilien et d'avoir un petit peu de réconfort les dimanches au Brésil, qui était souvent le matin avec le décalage horaire, c'était les victoires de Senna. Et Ayrton ne manquait jamais l'occasion de rappeler qu'il était brésilien, de montrer qu'il était brésilien, de faire des tours même d'honneur, même si c'était interdit par Jean-Marie Balestre, le président de la fédération, des tours d'honneur avec le drapeau brésilien, évidemment de l'avoir sur le podium. Il était évidemment très fier d'être brésilien, très fier avant tout d'être paulista de Sao Paulo, donc plus que de Rio, mais c'est tout un pays qui l'adulait évidemment. Le personnage qui faisait gagner le Brésil dans le monde entier. Et assez souvent, les victoires de l'équipe du Brésil, ça pouvait être en Coupe du Monde ou de manière plus ponctuelle. Donc oui. Je pense que ça tous les 15 jours, il y avait une raison. Il ne gagnait pas tous les 15 jours, évidemment, mais on parlait de lui et il était la fierté du pays, oui.
Et puis, il gagnait contre des Européens, il gagnait contre, finalement, des nations plutôt dominatrices dans le monde. Il y avait un côté un petit peu pilote. Alors, le Brésil n'est pas dans le tiers-monde, mais c'était un petit peu ça. C'était quand même, dans les favelas, on avait une sorte de défenseur, quand même.
Oui, alors, Le Brésil a eu la chance d'avoir des très grands pilotes brésiliens avant Ayrton. Évidemment, on pense à Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet, qui n'avait pas la même aura, mais qui a quand même gagné 3 titres de champion du monde. Et Fittipaldi se rapprochait un peu plus de Senna. D'abord, ils étaient très, très amis. Il était lui aussi de Sao Paulo. Il avait lui aussi conduit et gagné sur une Lotus noire et or, ce qu'a fait aussi Ayrton, et sa première victoire est assez symbolique à cet égard. Et il faut se rappeler en plus, sa première victoire en avril 85, c'est exactement le jour où Tancredo Neves, qui est président, qui doit entrer en fonction, meurt. Ce dimanche-là,
wow.
C'est incroyable. Le Brésil est partagé entre la peine d'avoir perdu son futur président et la joie de célébrer la victoire d'Ayrton Senna.
Alors pourquoi est-ce que vous avez choisi le roman et puis la première personne? Est-ce que ça a été un exercice difficile ou au contraire naturel et dont vous aviez besoin pour vous exprimer autour d'Ayrton Senna?
Alors, il y a plusieurs réponses. C'est un exercice difficile. En aucun cas, c'était naturel. D'abord, bon, vous l'avez rappelé, j'ai déjà écrit pas mal sur Ayrton Senna, une biographie en 1990. Ensuite, il y a eu Croisement d'une vie en 2004, qui était là une galerie de portraits d'une soixantaine de personnages qui avaient croisé la vie d'Ayrton Senna de manière plus ou moins intime ou longue ou... Et donc, je voulais faire quelque chose, ça me tenait vraiment à cœur de refaire quelque chose. J'avais pas terminé de mon histoire avec lui en termes d'écriture, mais je voulais pas refaire une biographie ou quelque chose d'un peu plus classique où je serais le témoin de ce dernier week-end. Donc, je me suis permis, autorisé et osé me mettre à sa place, parler à la première personne. Ce que je dis souvent ces derniers jours, je ne l'aurais fait avec aucun autre pilote, même des pilotes que je connais très bien, que je pense connaître très bien et dont je peux être proche. Je pourrais pas, ça serait impossible. Avec Ayrton, c'était très différent. D'abord parce que entre 78, l'année où je l'ai rencontré pour la première fois en septembre 78 au Mans, et le 1er mai 94, où il est parti, et j'étais là aussi, je l'ai suivi pendant tout ce temps. On a fait notre chemin en parallèle, lui d'une manière tout à fait glorieuse, moi d'une manière tout à fait anonyme, en étant un observateur privilégié. Et donc, je l'ai beaucoup observé, beaucoup écouté, beaucoup regardé. Évidemment, je pense que je le connaissais assez bien, en dehors des circuits comme sur les circuits. Et donc, je comprenais bien sa façon de penser, sa manière d'aborder la compétition. Donc, je me suis dit, je peux pas faire quelque chose, je pouvais pas écrire quelque chose en disant, il fait ci, il fait ça. Ça aurait été. Donc, j'ai préféré le truc bien casse-gueule, partir en slick sous la pluie, et puis on verra bien si ça fait une qualif respectable ou un flop total. Quoi.
Non, elle est respectable, ça je vous confirme. Il y a aussi une part supplémentaire à la légende, le mystère autour de la cause réelle de l'accident qui l'a emmené à filer tout droit dans le mur à Tamburello au début du Grand Prix de Saint-Marin. Quelle est aujourd'hui la thèse la plus solide pour expliquer ce qui lui est arrivé? On a parlé d'une rupture de la colonne de direction. Damon Hill parlait beaucoup de cette voiture qui était assez rétive, assez instable, du train arrière qui tressautait, qui passait mal les bosses. Est-ce que c'est une combinaison de plusieurs choses? Dans votre livre, vous relatez les accidents de Berger, d'Alboreto, de Piquet, dans cette fameuse courbe de Tamburello où le bitume était très imparfait et qui avait déjà piégé donc ces trois pilotes pour différentes raisons, mais pour un résultat, un crash vraiment contre le mur. Qu'est-ce qui en ressort aujourd'hui finalement parmi toutes les rumeurs, les fantasmes autour de ça?
Bon, en fait, il est évident que c'est une casse mécanique. À 90%, on incrimine la colonne de direction qui avait été modifiée, il faut le rappeler, un petit peu en urgence parce que Ayrton était mal installé dans la voiture. C'est vrai que la courbe de Tamburello à l'époque était une grande courbe très très rapide, avec un revêtement à la corde qui était inégal, vous l'avez rappelé. Il faut se souvenir que les voitures avaient fait plusieurs tours au ralenti, mais vraiment au ralenti, parce que il y avait une voiture de sécurité qui n'était pas celle qu'on connaît aujourd'hui, qui n'était pas du tout rapide, et donc les voitures roulaient à une vitesse incongrue pour des Formule 1, donc on a incriminé aussi alors la pression des pneus, donc la voiture était peut-être trop basse, il y avait une bosse. Est-ce que la violence du choc sur la bosse a provoqué cette casse de la colonne de direction? En tous les cas, les relevés télémétriques laissent montrer qu'il y a eu une perte d'hydraulique totale au niveau de la direction juste avant l'impact. Donc ça n'est pas l'impact qui a cassé la direction, parce qu'on a pu se poser les questions après, etc. Donc je vous avoue que sur l'enquête et sur les raisons propres de l'accident, je m'y suis intéressé comme ça parce qu'il le fallait pour le journal dans lequel j'étais à l'époque, Libération. Mais pour moi, le résultat, la cause, voilà, ça m'importait peu. Le résultat, c'est qu'Ayrton n'était plus là, quoi. Et que, en tous les cas, c'était pas de sa faute et c'était pas une faute de pilotage qui l'avait amené à sortir de la piste à cet endroit-là.
Alors, il y a un passage extrêmement intéressant dans votre roman où vous faites dire à Ayrton Senna, nommer en fait les priorités de la performance. Je parle de la vision, je parle des fonctions cognitives, c'est-à-dire le système nerveux. Et puis après, tout ça au service d'une capacité d'anticipation qui mène ensuite à la prise de décision pour faire un tour qualif et répéter ça 50, 60 fois le dimanche, avec une dimension un petit peu de virtuose. Donc ça, c'est vraiment, on se régale à lire ça. Et j'ajouterais peut-être qu'il y a une autre faculté qu'avait Ayrton Senna qui était extraordinaire, c'est la mémoire, puisque quand il commence en 1984 chez Tolman, on est un peu au début aux prémices vraiment de la préhistoire de la télémétrie. Et Ayrton Senna passait mais vraiment beaucoup de temps à décrire ses sensations chiffrées, vraiment avec des choses très très précises à l'appui. Et on s'est rendu compte au fur et à mesure qu'on mettait des capteurs sur les voitures qu'il disait absolument vrai.
Oui, mais il y a une phrase célèbre, hein, celle de Bernard Dudot, qui était motoriste chez Renault à l'époque Lotus, hein, donc un an après, il avait dit avec Ayrton, pas besoin de télémétrie, il est la télémétrie. Bon, c'était une façon de lui rendre hommage. Après, évidemment, cet outil s'est développé. Et le passage sur l'aspect cognitif, etc., que vous citez, il est très inspiré, évidemment, d'une interview qu'il avait donnée à Dennis Jenkinson, qui était un grand journaliste britannique, qui avait d'ailleurs fait les 1000 miles avec Stirling Moss. Et... mais ça, Ayrton l'a souvent répété et expliqué, et je dis souvent, c'était absolument fascinant de l'écouter à la fin d'une qualification ou d'une course qu'il avait gagnée, ou pas d'ailleurs, mais en tous les cas quand il était invité à s'expliquer devant la presse, parce que il nous embarquait dans la voiture et il nous disait absolument tout ce qui se passait, ce que beaucoup d'autres pilotes n'ont jamais fait ou n'ont pas su faire, et d'autres ont tout simplement pas eu envie n'ont pas envie de le faire. Et lui, c'était fascinant parce qu'à la fin de la réunion, le truc classique, le pilote parle, puis des questions parmi les journalistes. Parfois, il n'y avait pas de questions, il avait tout dit, absolument tout. Donc ça, c'était aussi le côté fascinant d'Ayrton, qui était vraiment, c'est vrai, très pointilleux. Et vous l'avez dit, chez Tolman, puis ensuite chez Lotus, et sa capacité d'analyse, en tous les cas, peut-être pas d'analyse, mais en tous les cas, sa capacité à retranscrire ce qu'il ressentait, voilà, au volant. Ce qui est, vous connaissez la course automobile, et je pense qu'une des choses les plus difficiles, c'est de transmettre un ingénieur qui a ses idées bien arrêtées, très pragmatiques, ce que fait la voiture. Mais comment lui dire la sensation physique que vous ressentez dans la voiture à l'entrée d'une courbe, ce que fait la voiture, ce que fait le moteur, comment il réagit, le retranscrire. Alors aujourd'hui, ils sont très aidés par la télémétrie, peut-être un peu trop même. Mais à l'époque, retranscrire ces sensations, c'était presque un exploit, hein.
Bah justement, vous mentionnez le fait qu'aujourd'hui, certaines choses ont changé. J'aimerais bien avoir votre avis sur la F1 moderne, actuelle. On a évoqué le fait que Lando Norris s'est dit on s'ennuie un petit peu en ce moment en Formule 1. Vous avez connu aussi une période, celle de l'ultra-domination de Michael Schumacher.
Me faire souffrir, c'est ça. Je le couteau dans la plaie.
Non, je voudrais savoir, est-ce qu'on s'ennuyait plus, moins à l'époque? Je l'ai en partie vécu. Moi, je démarrais tout juste. Et déjà, est-ce que c'était pire ou pas? Et surtout, est-ce que vous arrivez, vous, à comprendre pourquoi on a comme ça, de temps en temps, des périodes d'ultra-domination?
Mais alors, je me faisais la réflexion justement hier à la suite du Grand Prix de Chine, encore gagné par Max Verstappen, dans un style qui est quand même assez intéressant et assez flamboyant. Et je me disais, mais comment j'ai fait pour supporter, survivre à 5 années de domination de Michael Schumacher,
qui avait lui. Plus 2 avant chez Benetton.
Oui, bah, on vous avoue qu'on se pose un peu la même question.
Je ne les compte pas trop chez Benetton parce qu'on connaît les circonstances, etc.
C'était assez rocambolesque.
C'était un contexte particulier aussi, puisqu'il était quelque part, il reprenait le flambeau d'Ayrton Senna.
Ouais.
Mais les années Ferrari, oui, c'est effectivement, ça vous a un peu coûté.
Il y avait Flavio Briatore qui mettait un petit peu de poivre là-dessus.
Mais non, mais enfin, moi, j'aime toujours la course, je suis toujours passionné par le. C'est-à-dire que je suis un doux rêveur. C'est comme sans doute beaucoup d'amateurs de F1 et de sport automobile. À chaque départ, ou à chaque départ de qualification, ou à chaque départ de course, je me dis, bah, il va se passer ça, il va se passer ci. Non, pas du tout. Max, vous voyez le lapsus Max Schumacher, Max Verstappen. J'aime beaucoup plus voir en action Max Verstappen que Schumacher à l'époque. Mais bref, c'est un autre débat. Donc, j'ai toujours cet espoir qu'il se passe quelque chose. Et puis, comme les commentateurs un peu de la F1 le disent aujourd'hui, ils disent, bon, alors, vous oubliez Max Verstappen, puis on va regarder ce qui se passe derrière. Puis il se passe des trucs derrière quand même. Alors, évidemment, ce n'est pas pour la gagne. Mais bon, ça reste du sport automobile. Et puis, il y a des choses. Puis voir, c'est quand même... Ces pilotes en action, ça reste quand même quelque chose de formidable.
Alors, on ne regrette pas le personnage Bernie Ecclestone, l'ancien grand argentier de la Formule 1, forcément, mais il avait un parti pris quand même de dire qu'il fallait des équilibres dans les équipes, et peut-être qu'aujourd'hui, quelqu'un comme ça dirait, bon, ben, enlevez-moi ce Perez de la Red Bull, et puis mettez-moi un Carlos Sainz pour essayer de secouer un petit peu Max Verstappen, parce que c'est pas une approche très sportive de dire, oublions Max Verstappen, il lui manque juste, en fait, un coéquipier, et c'est peut-être ça aussi qu'on a eu dans les grandes années que vous avez connues, du Piquet-Mansell chez Williams, du Prost-Senna chez McLaren, et c'est ce qui redonnerait tout de suite de l'intérêt à la Formule 1.
Oui, mais est-ce que quelqu'un dans la Red Bull, quelqu'un du plateau, est-ce qu'un autre pilote serait capable de titiller vraiment Max Verstappen? Parce que c'est pas certain du tout, hein. Pas sûr que Sainz fasse beaucoup, beaucoup mieux que Perez. Peut-être qu'un Hamilton, mais il est vieillissant quand même si je l'aime beaucoup. Alors, peut-être qu'il ne gagnerait pas à chaque Grand Prix, Max Verstappen, mais peut-être qu'au bout du compte, ça serait quand même lui le champion du monde. Mais ça serait très bien, effectivement, s'il y avait une vraie rivalité, une vraie bagarre. Mais je ne suis pas sûr qu'Ecclestone aurait aujourd'hui les moyens de faire plier les écuries et d'interchanger comme ça les pilotes à sa guise. Ça, c'est le temps passé et c'est plus tout à fait d'actualité. Mais je suis d'accord avec vous, on aimerait beaucoup voir quelqu'un qui titille Max Verstappen dans la Red Bull, mais... Compte tenu du contexte global, j'y crois pas trop, quoi. Je crois pas que ça soit possible.
On s'inquiète, je lâche le mot, on s'inquiète un petit peu de la Formule 1 française avec les difficultés d'Alpine. On s'inquiète aussi sur l'avenir de Esteban Ocon et de Pierre Gasly. Quel est votre regard, quel est votre sentiment avec un petit peu plus de recul que nous? Est-ce que la F1 française est en danger? On a déjà plus de Grand Prix en France, de nouveau.
Bon, alors le Grand Prix, ça, on peut faire une croix dessus pour quelques décennies. C'est tout simplement une question de financement, ça c'est clair. Concernant l'écurie française, il y a de quoi s'inquiéter, oui. Il y a de quoi s'inquiéter, même si ces responsables, dirigeants, essaye de nous faire penser qu'il n'est pas question de vendre l'écurie, qu'elle n'est pas à vendre, etc., et que tout va aller mieux. Ça fait tellement longtemps qu'on nous dit que l'année prochaine ou dans 2 ans, ça ira mieux. Alors, le discours a un peu changé, parce que avec Bruno Fama à sa tête, qui est beaucoup plus pragmatique, il a instruit des années passées, il a compris que ça servait à rien de faire des effets d'annonce, ça marche pas. Ce qu'il faut, c'est des résultats. Et on voit que, écoutez, c'est simple, hein, 2024, on oublie, 2025, on peut oublier. Il faut juste espérer, un peu comme pour Mercedes, hein, d'ailleurs, on peut juste espérer que 2026, avec là les cartes vont être rebattues, ça peut changer. Est-ce que l'Alpine deviendra une écurie de pointe? C'est pas sûr du tout, hein. Mais là, il n'y a pas trop d'illusions à se faire pour les 2 prochaines années. Et comme vous l'avez souligné, en revanche, c'est très très inquiétant pour nos 2 pilotes, Gasly et Ocon. Alors à une époque, on envoyait Gasly peut-être chez Audi. C'est un peu ça varie, ça fluctue vraiment, hein, d'un grand prix à l'autre. On voit que les possibilités de changement sur la grille, un jour on met Sainz chez Mercedes, puis on le met chez Red Bull, puis non, surtout pas chez Red Bull, plutôt chez Audi. Enfin bon, c'est vraiment c'est un peu Max Verstappen qui a les clés, parce que bon, on ne sait pas, là, l'affaire Horner-Marco, on va dire que c'est un peu la guerre interne. Horner-Marco semble s'être un peu calmé, mais ça peut repartir très vite dans 2 ou 3 Grands Prix, on ne sait pas, hein, ça dépend un peu de ce qui se trame en coulisses. Donc, ça dépend beaucoup de où sera Max Verstappen. Peut-être que Max Verstappen va rester jusqu'au bout de son contrat chez Red Bull, ce qui, à mon avis, mais c'est un avis tout à fait personnel, serait une erreur au-delà de 2025, parce que franchement, le moteur Red Bull, le futur moteur, le Power Unit Red Bull, je n'y crois pas. Enfin, je n'y crois pas à brève échéance. Il ne marchera pas en 2026, il ne marchera pas en 2027. C'est pas des magiciens quand même. Il faut apprendre, c'est pas du tout leur métier. Et même s'ils ont des grands ingénieurs, des gros moyens, je ne les vois pas mettre sur la piste quelque chose qui puisse rivaliser avec Mercedes ou avec Honda ou les Ferrari, bien sûr, dans un avenir proche.
Qu'est-ce que vous regrettez le plus? Alors, on n'est pas là pour dire c'était mieux avant, mais 24 Grands Prix, la Formule 1 est devenue une énorme machine. Et on a eu quelques beaux circuits qu'on nous avait proposés en 2020
par pendant la période
improvisation,
COVID.
Des Mugello, des choses comme ça. Est-ce que on va pas vers une uniformisation qui porte préjudice à la Formule 1? On attend aussi un Grand Prix en Afrique, franchement, hein, ça compléterait vraiment la carte du monde. Est-ce que vous avez encore un plaisir à aller sur certains circuits? À Singapour, on a fait une première course de nuit en 2008, c'était l'événement. Maintenant, c'est la banalisation. Et là, maintenant, on a un copier-coller d'une année sur l'autre du calendrier. Et on a l'impression qu'on arrive un petit peu à un plafond de verre.
Oui, non, c'est sûr que moi, c'est très simple. Il y a des grands prix où je préfère même pas aller. Et il y a des circuits qui sont très... c'est très banalisé, c'est très ennuyeux, c'est pas beau, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et je pense que l'erreur, même si la F1 est un gros business, l'erreur fondamentale, c'est la multiplication des courses. Je pense qu'au-delà de 20, il faut quand même créer un petit peu le manque, quoi. Parce que là, vous voyez, on sort d'un Grand Prix, bon, ça passe très vite. Dimanche, il n'y en a pas. Dimanche prochain, mais on est tout de suite à Miami. Puis après, on enchaîne sur Imola. Puis une semaine après, il y aura Monaco. Enfin, le produit se banalise quand même, hein, un petit peu. D'autant plus que il n'y a pas beaucoup de surprises en piste. Donc, faut voir comment les choses vont évoluer. Est-ce que c'est tenable, le business à 24 courses par saison, quoi.
On verra ça dans les prochaines années. On sait déjà qu'il y en aura donc 2025, il y en aura encore 24 et les mêmes, juste dans un ordre un petit peu différent. On en a parlé. Merci beaucoup, Lionel Froissart. Je rappelle votre roman L'icône immolée chez En Exergue, et puis la réédition donc de la BD Histoire d'un mythe chez Glénat. C'était un honneur, un privilège, un plaisir aussi de vous avoir dans les Fous du Volant aujourd'hui.
Merci, merci à vous.
Comme promis, on évoque maintenant la deuxième manche du championnat d'endurance qui avait lieu du côté d'Imola le week-end dernier. On reste dans la thématique Ayrton Senna avec notre camarade Fabien Gérard qui était au micro avec Patrick Rivet, avec Paul Belmondo, avec Nathanaël Berton. Bonjour Fabien.
Bonjour les garçons, bonjour à tous.
On est ravis de t'introniser dans la confrérie des fous du volant. Je ne te pose pas une épée sur chaque épaule, mais l'esprit y est.
J'en suis ravi et très touché. Merci beaucoup. Je vais essayer d'honorer cette invitation.
Eh ben, on y compte bien. Fabien, on avait eu un triplé des Ferrari en qualification. Il y a eu un moment... Alors moi, personnellement, j'ai commenté les 24 heures du Mans Moto. Quand je suis rentré, les Ferrari étaient devant. J'ai fermé les yeux, je les ai rouvertes. Elles étaient très, très loin. On s'est bien planté sur la stratégie quand même du côté de chez Ferrari. On a saccagé une victoire et même un doublé, un triplé qui tendait les bras.
À croire que les stratèges de la F1 de Ferrari d'il y a quelques années sont venus faire un tour du côté d'Imola.
Faut demander à Iñaki Rueda, où étiez-vous dimanche après-midi?
Il y avait un monsieur à lunettes qui rôdait par là, les cheveux un peu frisés.
Ouais, j'ai une idée pour la stratégie.
En fait, ce qui s'est passé, on a eu une averse qui s'est avérée être beaucoup plus forte que ce que les prévisions pouvaient laisser croire. Et je crois que chez Ferrari, on s'est un petit peu laissé avoir par les sensations que les pilotes avaient été en piste et avaient en piste. Ce qu'on voulait avant tout aussi, c'était prolonger au maximum son relais pour essayer de gagner un relais par rapport aux autres, bien entendu. Et ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'il a commencé à pleuvoir, je me souviens très bien, l'ingénieur de la 50, si je ne me trompe pas, demande à 51, demande à James Calado s'il faut rentrer pour mettre des pneus pluie, parce que pour lui, et en tout cas les prévisions qu'ils avaient, il était important de rentrer et de mettre les pluies. Bien entendu, s'il rentrait pour faire ça, ça mettait en l'air un petit peu tout ce qu'ils avaient plus ou moins établi et calculé comme stratégie. James Calado dit « Non, on peut rester dehors, on reste en slick ». Et malheureusement, il s'avère que la Toyota qui était rentrée, une fois qu'elle avait chaussé les pluies, roulait pratiquement 10 secondes plus vite que la Ferrari. Donc Ferrari n'a eu d'autre choix que de rentrer elle-même au stand et de faire changer les pneus mais beaucoup plus tard. Ce qui fait qu'effectivement, à ce moment-là, il y a eu une bascule. Et l'autre bascule supplémentaire qui s'est effectuée au détriment de Ferrari, c'est que lorsqu'il a cessé de pleuvoir et que la pluie a commencé à sécher, ils ont aussi pris du temps en écoutant leur pilote pour rebasculer en pneus secs.
Et voilà, il faut laisser la stratégie au pilote, et là, tu as des surprises.
C'est vrai que sans faire exprès, les pilotes de la Scuderia Ferrari Endurance ont donné un argument à Stéphane qui, lui, milite en disant « Mais lâchez les pilotes, laissez-les faire !» Et quelque part, laissez-les faire des erreurs.
Leur choix, bien sûr. Ouais. Ou alors, quand ils ont une solution audacieuse, quand un stratège est frileux, il faut les laisser aller dans leur direction. Mais en endurance, on n'est pas tout seul. Il y a d'autres responsabilités, l'équipage. Donc
là, pour le coup, les stratèges de chez Ferrari en endurance avaient raison et c'est les pilotes qui les ont mis dans le mur. Mais pourquoi aussi ? Parce que les pilotes, ils se battent entre eux, entre équipages.
Oui, et puis c'est surtout que les sensations qu'ils avaient en piste étaient bonnes. Et c'est vrai que c'était très impressionnant parce qu'en fait, on était typique dans ce qu'on peut voir au Mans, par exemple. C'est-à-dire que le troisième secteur était détrempé et le secteur 1, secteur 2 était sec. Donc forcément... La balance des trois secteurs laissait dire c'est chaud, mais laissez-nous faire. On y arrive, ça tient. Mais c'est vrai que c'était spectaculaire. On a vu aussi en GT3 LM, Maxime Martin et Augusto Farfus s'arsouiller
comme
deux sagouins, et les deux étaient en slick. Et on était vraiment à un moment, des trompes d'eau. La piste était vraiment détrempée et ces garçons sont restés dehors en slick, tout comme les pilotes Ferrari. On est dans le dernier secteur du circuit du Mola. Je ne sais pas si vous voyez, c'est dans la redescente avec le double gauche qui conditionne toute la grande ligne droite. Là, on est dans ce que Nathalie Berton nous appelait un G-Combine. Donc, c'est-à-dire, c'est un virage en appui dans lequel il faut freiner. Donc, c'est-à-dire qu'il y a tout pour que ça parte en vrille. Et les pilotes Ferrari ont, malgré cela, réussi à garder les voitures sur la piste, mais au détriment de la performance. Et c'est là que Toyota, qui a été très maligne, qui a vraiment... Là, on sent vraiment... c'est ce qu'on s'était dit avec Paul et Patrick. On en a senti toute l'expérience de Toyota, de ses années de présence en endurance au plus haut niveau. Alors, certains disent, ouais, mais Toyota, pendant plein d'années, ils n'ont eu aucun adversaire. Ils étaient leur propre adversaire. Et pendant toutes ces années, ils ont vraiment couru au maximum de leurs possibilités pour essayer d'emmagasiner un apprentissage, un maximum de connaissances qui leur a certainement servi ce dimanche.
Ouais, c'était exactement la question que j'allais te poser. On voit bien quand même qu'il y a une récompense en fait à la continuité en endurance, parce qu'ils connaissent pas plus Imola que les autres. Hein, Toyota, on y venait pour la première fois en WEC.
Donc, en compétition, oui, mais on peut imaginer que Ferrari, qui est quand même juste à côté, leurs pilotes ont roulé en GT ou en quoi que ce soit. Donc, il y avait une connaissance pour les pilotes Ferrari. Les autres aussi connaissaient, mais pas certainement pas effectivement avec les données pour une voiture hypercar.
Autre question, c'était la première course aussi pour la 9X8 modèle aileron arrière déployé. Est-ce qu'il faut être un petit peu déçu? La première des 9X8 prend la 9e place, c'est la 93, la 94 termine à la 14e place. Est-ce qu'il faut être déçu? Est-ce que c'est prometteur? Est-ce que toi, ayant vu l'ensemble du week-end,
t'as un avis? On ne peut pas accuser Peugeot de quoi que ce soit compte tenu de la balance de performance qui était la leur. Ils avaient la voiture la plus lourde et une des moins puissantes. C'est malheureusement l'algorithme de la balance de performance qui, avec les chiffres de la voiture qui ont été fournis par Peugeot, dont ils n'avaient pas le choix, a établi cette balance de performance. Mais du coup, ça a complètement, entre guillemets, détruit la performance possible de cette voiture. Donc, on n'a pas vu le potentiel de cette voiture. En plus, un circuit comme Imola, il faut être honnête, c'est pas un circuit pour des voitures de ce calibre. La 9X8, on l'a vu l'année dernière. La première fois où cette voiture a monté son vrai potentiel, c'était aux 24 heures du Mans.
Ouais.
Et cette 9X8,
elle est faite pour ça.
Elle est faite pour rouler dans des grandes lignes droites, avec des virages rapides, pas des virages où il y a de la relance, où il y a un seul secteur où ça allait vraiment vite à Imola. Donc c'est pas un circuit où on peut se rendre compte du potentiel de la voiture. En plus, la 94 a été accidentée au départ.
Ah oui, il y a eu un gros crash au départ.
Il y a eu un énorme carton au départ. Donc voilà, il y a eu encore pas mal de paramètres qui se sont alignés contre Peugeot, mais je ne condamnerai absolument pas cette performance de Peugeot, surtout que la voiture de Jean-Yves Verne remonte en 9e place et il s'est lancé depuis le fin fond de la grille d'hypercar. Donc c'est une belle progression compte tenu des conditions dans lesquelles cette course s'est aussi déroulée. Donc non, ne condamnons pas la 9X8 2.0. Je pense qu'on n'a pas encore vu son vrai potentiel. Peut-être que Spa-Francorchamps, si la balance de performance ne lui plombe pas encore les ailes, devrait être un peu plus proche de la réalité de la performance de cette voiture.
Stéphane.
Pour remplacer la manche de Monza qui est en travaux, j'aurais peut-être plus vu Mugello.
Ah oui.
Dans cette harmonie de grandes courbes, plus dans l'esprit d'endurance, des qualités dynamiques d'une voiture.
Surtout qu'on se souvient l'expérience de la Formule 1 au Mugello,
voilà,
c'était fabuleux.
Absolument génial.
Oui, c'est un choix que Nathanaël Berton avait aussi émis. Mais figurez-vous que moi, je trouve que cette course d'Imola était en tout point magnifique. On a eu un ventre mou, comme on a souvent dans les courses d'endurance, on va pas se le cacher. Mais je peux vous dire qu'à partir du moment où on a eu l'averse, on a eu 2h45 de course absolument fabuleuse, où on comptait les tours pour savoir qui allait plus ou moins revenir. La fin de course entre Kevin Estre et Kamui Kobayashi était absolument fabuleuse. La Porsche devait absolument revenir et essayer de dépasser la Toyota de plus de 5 secondes. Donc, et chacun avait un potentiel d'énergie qui, selon les calculs de leurs adversaires, ne leur permettait pas de finir. Donc, il y a eu un suspense vraiment fabuleux jusqu'à la fin de la course.
Ça veut dire que toi, tu as commenté une course avec du suspense, on ne savait pas qui allait gagner.
Eh ben, absolument.
Ah ouais. Ah, ça existe alors.
Absolument.
Bon, bah donc il faut
essayer en plus. Voilà. Donc,
on a de la chance, on a plusieurs catégories.
Faudra...
Si on s'ennuie dans une, on va voir dans l'autre.
Eh ben, il faudra aller regarder le 11 mai prochain, les 6 heures de Spa. Ça sera la troisième manche, la dernière course avant les 24 heures du Mans. C'est traditionnellement la grande répétition générale avant les 24 heures, parce que Spa, il y a des portions aussi où ça va très très vite.
Ça va très très vite. Attention quand même à à ce que les équipes ne font pas ce que l'on appelle du sandbagging,
ah ouais.
hein, emmener des ouais. sacs de sable pour cacher sa véritable performance, pour ne pas être pénalisé pendant les 24 heures du Mans. On a d'ailleurs une analyse d'un de nos consultants, c'était Nathanaël, je crois, qui dit « Tiens, c'est étonnant quand même, quand on demande au pilote d'aller chercher une demi-seconde de plus au tour pour se mettre à l'abri, il y arrive d'un seul coup, tout ça. » Donc, et c'était les pilotes Ferrari. Donc, on se demande, en fait, si Ferrari ne cache pas encore complètement son jeu, quitte à sacrifier une manche pour pouvoir arriver au Mans en étant très bien.
Oui, quitte à sacrifier le championnat du monde pour aller gagner au Mans. Parce que ce qu'on retient de la saison 2023, c'est la victoire des 24 heures du Mans. Ce n'est pas le titre de champion du monde. Ouais.
Surtout avec le plateau actuellement, avec ces 11 constructeurs qui sont maintenant engagés. Je peux vous dire que cette grille, elle est hallucinante et que c'est un plaisir incroyable de commenter ces courses en direct, c'est clair.
Et bah, de toute façon, donc prochain rendez-vous avec le championnat du monde d'endurance le 11 mai à Spa. Et puis évidemment, ça sera sur Eurosport. Et évidemment, derrière, les 24 heures du Mans seront aussi sur l'antenne d'Eurosport. Merci beaucoup, Fabien, d'avoir été avec nous, Fabien, de nous avoir fait ce petit rapport. Je crois que tu vas foncer sur le Tour Auto, toi.
Je vais au Tour Auto. Et puis à la fin de la semaine, messieurs, je pars en Croatie pour la première manche d'ouverture du Speedway GP.
Ah,
à
ouais.
suivre, bien entendu, aussi sur nos antennes. J'ai la chance de travailler sur tous les Grands Prix. Vous savez quoi ? Je vais revenir vous en parler. Parce que sincèrement, le Speedway Grand Prix, c'est ouais, peut-être mais... le truc le plus malade que j'ai vu toute ma carrière en sport mécanique.
On verra. Je ne sais pas si on ouvrira à la moto, parce que c'est aussi un bel univers. Merci, Fabien.
Avec grand plaisir. Salut. Bonne fin d'émission.
Et ben voilà, on a été complet. On a parlé de la F1 d'aujourd'hui, de la F1 d'hier, de l'endurance aussi. Il nous reste plus qu'à nous donner rendez-vous pour le prochain épisode des Fous du Volant. Ça sera donc après le Grand Prix de Miami, qui se déroulera le 5 mai prochain. Voilà, toujours un spectacle. Même si c'est un peu fake sur certains trucs.
Ça a son charme, c'est un vrai charme, moi je trouve. Et puis moi ce que j'attends surtout, c'est des nouvelles du projet d'équipe de Formule 1 d'Andretti, qui est un projet très solide, et on espère que ça va avancer. Ils essaient de forcer vraiment la porte des équipes établies qui ne sont pas très favorables à l'accueillir, mais j'espère vraiment qu'on va trouver une solution.
Ce podcast, qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast et par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et aussi à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Stéphane, on se retrouve donc après le Grand Prix de Miami. Et d'ici là,
on coupe le contact.